Les acteurs de la Pierre Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Rémy Bourgeon. Rémy, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, j'appelle que vous êtes le président d'Alderan, un gestionnaire d'actifs immobiliers dont les encours dépassent désormais 1,7 milliard et non pas 1,3 milliard comme j'avais indiqué précédemment, notamment grâce au succès rencontré par les deux SCPI que vous gérez aujourd'hui, Activimo d'abord et Comet ensuite. Alors, on va commencer tout de suite par un bilan 2024 puisqu'on est encore dans les temps, si je puis dire. Ces deux véhicules se situent l'un comme l'autre parmi les 10 SCPI qui ont le plus collecté l'an dernier. Pourquoi cette continuité dans la collecte et quels sont les résultats obtenus par ces deux véhicules en 2024?
Bon, merci Frédéric de cet éclairage. Alors effectivement, Alderan est top 5 des sociétés de gestion collectrices en 2024, avec un partage de 185 millions sur Activimo. Je parle de collecte brute parce que c'est le travail des équipes. Et 110 millions au niveau de Comet. La capitalisation d'Activimo, c'est 1,3 milliard. Un rendement annoncé de 5,5 tenu, donc dans un contexte qui n'était pas forcément très facile, avec un TRI réalisé sur 5 ans à 3,76% pour Activimo. Une valeur de reconstitution qui est revenue au niveau de la valeur de la part. On a repris 9 euros par rapport à l'année dernière, ce qui est un signe d'amélioration du portefeuille. En ce qui concerne Activimo, on a également 183 immeubles maintenant en gestion, répartis dans 6 pays. C'est une des caractéristiques aussi, c'est que depuis 2022, on a beaucoup investi à l'étranger. Et concernant Comet, on a collecté 110 millions pour sa première année, en affichant un rendement de 10,62% par rapport à la valeur pleine de part, et d'ores et déjà un TRI positif de 0,62% sur les 12 premiers mois, ce qui est une vraie performance, on évite la courbe en J.
Vous êtes premier du marché en termes de performance. Alors justement, revenons sur ce taux de distribution de 10,62, ça c'est le calcul que vous faites vous, c'est pas le calcul ASPIM, le calcul ASPIM vous crédite de 11,18 parce que il est possible dans la réglementation ASPIM de prendre en compte le prix des parts fondateurs et pas celui du prix souscription. C'est quoi ce... Alors aujourd'hui il y a un débat, on va pas se cacher, pourquoi vous avez-vous choisi de prendre plutôt le prix de souscription plutôt que le prix fondateur?
Tout simplement par transparence totale vis-à-vis des souscripteurs. La phase sponsor chez nous, elle n'a duré que 2 mois et il y a eu 12 mois d'activité et de collecte. Donc il était logique de s'étalonner par rapport à la valeur de la part à 250 euros et non à 237,50 euros qui n'a duré que 2 mois.
Est-ce que vous pensez, compte tenu du débat actuel sur la communication sur les taux de distribution, notamment annualisés, est-ce qu'il faut mettre un peu d'ordre dans le marché?
C'est pas à moi de mettre de l'ordre. Hein. Nous, on essaye de respecter ce qui nous est conseillé, aussi bien en termes de contrôle des risques et de la conformité, et surtout d'éviter de faire des annonces trompeuses. Il y a beaucoup de réflexions, effectivement. Je suis assez surpris qu'on puisse annualiser des taux de distribution lorsqu'on a seulement 2 ou 3 mois d'existence. Après, mais chacun fait comme il veut, si j'ose dire. Et c'est à l'AMF de faire le gendarme derrière, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, peut-être un peu tardivement. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué en ce début d'année, les annonces successives qu'il y a pu y avoir.
Bon, on va pas polémiquer sur ce sujet, on va rester sur la SCPI Comet. Alors, elle est résolument internationale. Où a-t-elle investi justement en 2024?
Alors, en un an, on a déjà ouvert 4 pays. La Hollande, le Royaume-Uni, donc hors zone euro, ce qui est intéressant parce que c'est un risque de change à couvrir. L'Italie et l'Espagne, l'Espagne en particulier étant déjà un pays très, très labouré par nos équipes. On a acheté 9 immeubles. Avec une diversification assez étonnante, puisqu'on a aussi bien un centre de paddle, un hôtel, des studios d'enregistrement à Amsterdam qui sont ceux de la société Endemol, bien connus du public français, des bureaux à Milan, et puis des commerces en plein cœur de Cardiff, achetés au mois de décembre dernier.
Donc très diversifié, toute classe d'actifs. Mais pourquoi ces pays en particulier? Parce que c'est vrai que c'est ceux qui reviennent le plus souvent aujourd'hui. On nous cite beaucoup le Royaume-Uni, l'Europe du Sud également. C'est une tendance qui va se poursuivre?
Oui, c'est une tendance qui va se poursuivre parce que les conventions fiscales entre la France et ces pays sont les plus favorables aux souscripteurs. C'est absolument indéniable. C'est la raison pour laquelle tout le monde va sur ces marchés-là. Ce sont des marchés avec des maturités différentes. Donc, on a des possibilités de saisir de très belles opportunités. Ça explique aussi un petit peu la qualité du rendement produit par Comet en 2024. En particulier, la vitesse avec laquelle nous achetons en moyenne moins de 2 mois les actifs à l'étranger.
Oui, on y reviendra justement. On va passer sur la SCPI historique, si je puis dire, Active Immo. Alors elle est dédiée, à la différence de Comet qui est diversifiée, elle est dédiée au secteur logistique. Alors est-ce que ce créneau est toujours aussi porteur ?
Ah, il est particulièrement porteur, si j'en juge par la performance réalisée par cette classe d'actifs sur le marché français en 2024, puisque pour la première fois, c'est ce secteur d'activité qui a vu la majorité des investissements se réaliser, avec plus de 27% de parts de marché et plus de 5 milliards d'euros d'investissements en France. Donc pourquoi ? Parce que c'est une classe d'actifs extrêmement résiliente. Le développement du e-commerce ne se dément pas. Les bâtiments se sophistiquent. Il y a aussi une raréfaction des nouvelles constructions par la réglementation française. Et donc, il est logique de se dire que c'est une voie d'avenir que d'investir aujourd'hui dans la logistique. Et les bâtiments ne sont pas obsolètes en 15 ans, ils le seront peut-être en 30 ou 40 ans, et encore on peut améliorer leur durée de vie.
Mais ça veut dire qu'il y a plus d'investisseurs, mais est-ce que les prix, eux, suivent ? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, si vous pouvez générer des rendements aussi importants, c'est parce que les prix ont baissé. Est-ce que c'est le cas dans le secteur logistique ?
Alors, ça a été clairement le cas après une embellie colossale en 2022, on va pas la rappeler. 2023-2024 ont vu effectivement les prix baisser, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer dans cette classe d'actifs, puisque la reprise des prix vers le haut a eu lieu dès le deuxième semestre 2024. Aujourd'hui, c'est très difficile, il y a de fortes compétitions, et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous sommes allés hors de France pour chercher de nouvelles opportunités et de meilleurs rendements. Et ça explique pourquoi nous avons réussi à maintenir notre taux de distribution à 5,5%.
Alors, il y a un sujet que je voulais qu'on aborde aussi, c'est celui, on l'a déjà dit, c'est les CPI sont de plus en plus internationales, les deux vôtres c'est le cas, mais c'est un mouvement que l'on observe sur l'ensemble du marché, qui a commencé il y a plusieurs années, mais qui s'est accentué aujourd'hui. Pourquoi est-ce que aujourd'hui autant de CPI vont chercher hors de France des actifs ? Est-ce que c'est une nouvelle étape dans leur développement, ou est-ce que c'est le signe qu'il devient de moins en moins pertinent, voire rentable, d'investir sur le marché français ?
Toutes ces raisons-là sont réelles. Bien sûr que l'internationalisation est une vraie direction, et je comprends que la plupart des acteurs veuillent aller en Europe. Après, il y a d'autres contraintes, peut-être notamment sur les méthodes d'acquisition. Mais en tout état de cause, élargir son terrain de jeu, ça veut dire mutualiser son risque géographique, ça veut dire mutualiser son risque locataire, ça veut dire aller sur des marchés à des maturités différentes et donc évidemment profiter des meilleures opportunités.
Ça c'est les bonnes raisons, je dirais.
Ça c'est la très bonne raison, c'est pas évidemment la seule. La deuxième très grosse raison, c'est naturellement la fiscalité attachée aux revenus fonciers en France. Et quand vous recevez des loyers en provenance de l'étranger, vous économisez instantanément la CSG et la CRDS, c'est-à-dire 17,2%. Bon, donc il est clair que ça a un intérêt majeur pour nos amis souscripteurs.
Et ça, c'est la principale raison, enfin aujourd'hui, pour ceux qui se lancent, parce que toutes les CPI qui sont lancées se disent européennes, voire hors France, systématiquement.
Non, je ne pense pas que ce soit la seule raison. Il faut jamais investir dans l'immobilier. Bon, ça, c'est peut-être mes 40 années d'expérience dans l'immobilier uniquement pour des raisons fiscales. Mais je dirais que la fiscalité plus favorable est un plus non négligeable.
Et il y a des mesures qui pourraient être prises en France pour éviter justement ce différentiel défavorable.
Chaque fois que je rencontre un élu, j'en rencontre souvent, je leur dis que je ne comprends pas pourquoi l'investissement immobilier est si pénalisé en France, ce qui explique pourquoi d'ailleurs l'épargne française est en train de sortir du pays pour s'investir en Europe, par rapport à des investissements dits industriels, où finalement la fiscalité est bloquée par la flat tax à 30%. Quand vous êtes en CPI française, vous êtes dans les revenus fonciers. Si vous êtes quelqu'un qui a une tranche d'imposition à 35%, vous rajoutez 17,2%, vous êtes à plus de 50%. 100%, c'est mécanique. Donc forcément, il y a une distorsion, je trouve, de traitement entre les investisseurs immobiliers et les investisseurs industriels.
On va rester sur les marchés immobiliers étrangers, justement. On a dit que c'était intéressant d'y aller. Mais quels sont les plus porteurs pour les prochains mois ou années? On a évoqué le Royaume-Uni, les pays anglo-saxons, le sud de l'Europe. Mais selon vous, est-ce qu'il y a d'autres deux pays auxquels il faut s'intéresser aujourd'hui, notamment peut-être pour des raisons géopolitiques?
Alors, clairement, on n'ira pas dans des pays où il y a des risques géostratégiques. Ça, c'est évident. On ne peut pas faire prendre de risques à l'épargnant français. On se doit d'être prudent dans notre approche. Et donc, je dirais que les pays que l'on va viser, c'est ceux où il y a un état de droit assuré. Ce qui veut dire, en gros, le monde occidental, le Commonwealth, je mets là-dedans l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où il y a des règles de droit qui s'appliquent et où finalement les transactions se font de façon les plus transparentes possibles. Vous savez que dans notre métier de gestion de l'épargne, on peut pas se permettre de prendre des risques au regard du blanchiment, au regard du financement du terrorisme, au regard du retour des investissements aussi, c'est-à-dire le flux locatif qui doit revenir en France pour servir le revenu à nos souscripteurs. Donc on ne peut aller que sur des pays où il y a une certaine sécurité juridique.
Avec une présence locale, ce qui est votre créneau.
Alors là, j'en profite effectivement pour saluer les performances de mon équipe, parce que il faut jamais oublier que pour acheter à l'étranger, il faut aussi avoir des équipes parfaitement mobiles, agiles et capables aussi de driver, comme on dit, les opérateurs locaux avec qui nous contractons après une forte sélection. Donc vous savez que dans notre équipe, il y a beaucoup de gens qui viennent directement du monde de l'immobilier, qui est le sous-jacent des SCPI, et pour ça, il faut avoir un peu d'expérience. Je pense que nous en avons pas mal et nous l'avons démontré.
Alors j'ai une dernière question, il nous reste un peu moins d'une minute. Sur le marché des SCPI précisément, en 2024 on a vu l'émergence de nouveaux acteurs et le retrait, pour ne pas dire la déconfiture, de certains gestionnaires historiques. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce marché? Est-ce qu'on va assister à des restructurations, des rapprochements? Est-ce que le coût d'entrée sur ce marché n'est finalement pas trop faible? Et comment Alderan peut se positionner sur ce marché en mutation?
Alors, force est de constater qu'il y a très peu de fusions, acquisitions, si j'ose dire, entre sociétés de gestion. Soit que les plus grosses sont vraiment très grosses et de toute façon pas atteignables. Et les plus petites étant les plus récentes, c'est celles qui dégagent le plus de résultats. Donc il n'y a pas de raison particulière à ce qu'il y ait des rapprochements. Je pense qu'il peut y en avoir entre des sociétés de gestion comme la nôtre, par exemple, qui collectent beaucoup, et d'autres qui collectent moins, mais qui ont des encours sous gestion importants. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des rapprochements entre la capacité à avoir des commissions de souscription et la capacité à avoir des commissions de gestion, le tout cumulé faisant effectivement une bonne sauce.
Bon, écoutez, on verra ce que le marché nous dira en 2025. Rémi Bourgeon, merci beaucoup.
Merci beaucoup Frédéric.
Les acteurs de la pierre papier, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes de streaming.